parle vraiment d'une ligne directe. Faudra creuser en ligne droite, peu importe ce qu'on trouvera sur notre chemin.
Les métaux,
on creuse.
Les rivières,
on creuse.
Les marécages,
on creuse.
Et est-ce que je peux savoir à quoi servira cette ligne?
C'est un extrait d'une bande-annonce que, franchement, tu t'as piqué ma curiosité, Catherine. C'est le projet Hummingbird.
Oui, qui est le 7e long-métrage de Kim Nguyen, qui avait été présenté au Festival du film de Toronto. Film que j'ai adoré. Vraiment, Kim, qui est avec nous, bonjour.
Bonjour, Catherine, ça va bien?
Oui. Kim, écoute, t'as signé Rebelle. T'sais, on a beaucoup entendu parler de Rebelle parce que t'es allé aux Oscars avec ce film-là. J'avais vu Two Lovers and a Bear qui avait été présenté à Cannes. Et là, t'arrives avec le projet Hummingbird qui est un suspense financier.
Ouais.
Et je me dis, est-ce que t'as une ligne directrice pour tes films? Parce que ça s'en va de tout bord, tout côté.
Ben, des fois, je me demande si je devrais en avoir. Des fois, je me demande si les journalistes aimeraient ça que j'ai une ligne plus claire, effectivement. C'est plus... OK, lui, c'est dans cette catégorie-là de films. Mais ouais, c'est un film différent quand même. C'est un film différent. Je pense que ce qui le connecte aux autres films, c'est la folie dans le vrai. Tu sais, j'essaie de trouver des histoires qui parlent de choses que t'as même pas besoin d'inventer. C'est fou en partant.
C'est vrai que c'est fou. Il y a des acteurs américains qui sont dans ton film. Il y a Jesse Eisenberg, il y a Selma Hayek, il y a Alexander Skarsgård qui sont des gens qu'on voit de tourner avec des vedettes à l'international. Et d'arriver avec son film comme ça au Festival de Toronto et de le présenter un peu partout, j'imagine que ça t'ouvre des portes qui n'étaient pas nécessairement ouvertes avant.
Mais effectivement, je pense que c'est un film où qui y a quelque chose de libérateur dans ça. On a fait une belle vente aux États-Unis. Le film va sortir sur plus que 600 écrans à travers le monde. Ici, c'est le 22 mars, mais entre le 15 et le 22 mars, il va sortir sur plus de 600 écrans. Puis donc, c'est le fun parce que le dialogue est pas juste sur la critique, mais c'est aussi, il y a une appréciation du public. C'est un film de public, je pense. Je me suis pas empêché d'avoir du plaisir à le faire. Il y a un truc, je m'excuse l'anglicisme, mais il y a une part de heist dans le film, la traduction qu'on me dit, c'est un film de braquage, mais c'est...
Oui.
En tout cas, donc c'est ça, le film joue dans les genres, mais ça reste, je pense qu'il offre un voyage au spectateur.
Puis on rigole beaucoup, tu sais, au départ, quand on met la synopsis sur papier, on dit, bon, c'est deux cousins qui veulent construire une ligne de fibre optique entre le Kansas et le New Jersey pour gagner des millisecondes pour pouvoir encaisser plus de sous. Tu dis, oh, ça a l'air comme un peu lourd, mais non, c'est allégé, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait presque penser à du cinéma de Woody Allen.
Ah, c'est intéressant. Ben, écoute, je suis content d'entendre ça. C'est un ton qu'on a pris avec les acteurs en faisant les premières lectures. Alexander puis Jesse, qui sont super, ils m'ont tous les deux demandé presque de les deux autonomement. Je sens qu'il y a quelque chose de ludique dans le film. Est-ce qu'on peut mettre de l'emphase là-dessus, sur cet humour-là? Puis Alexander, il a même dit, écoute, moi j'ai une idée pour un des moments tournants du film. Je veux avoir une robe de chambre LED, verte, émeraude, avec des taches louches, puis je veux danser dans le corridor sur du hip-hop. Mais quand il gagne là, une certaine bataille, là, puis je dis, oh, OK, aussi loin que ça. Puis là, j'y ai pensé, puis on a testé ça, puis ça déménageait.
Puis tu l'as enlaidi?
Oui, ben
t'sais,
oui.
Tu sais, je veux dire, il y a le crâne chaud.
Oui, puis c'est dur là, d'enlaidir à Alexander.
Oui, vraiment, parce qu'Alexander Skarsgård, pour ceux qui ont vu la série Big Little Lies, c'était l'amoureux de Nicole Kidman. Mm-hmm. C'est un très bel homme, puis effectivement, les hommes...
Il a même joué Tarzan. C'était Tarzan.
Est-ce que les hommes ont moins de problèmes à s'enlaidir que les femmes au cinéma?
Je pense que les très belles personnes en général, justement parce qu'ils ont été réconfortés dans leur beauté, sont peut-être plus ouverts à se transformer complètement. Je pense que Charlize Theron, c'est la plus impressionnante dans ça, là, dans Monster, entre autres. Mais Alexander voulait complètement aller dans ça. Il n'y avait aucun problème. Alors, nos investisseurs avaient très peur. Ils nous ont dit, qu'est-ce que tu fais à notre Alex, à notre Tarzan? Tu vas lui raser la tête. Oui, c'est ça. Puis, mais il m'a beaucoup supporté dans ça. Il a dit, non, Kim, c'est ta vision. On fait ça, là, on me rase la tête.
Mais est-ce que les agents peuvent se mêler de ça, justement, en disant, moi, tu touches pas à mon poulain, ça va trop affecter son image de marque.
Non, pas les agences. Les agences, je pense qu'un agent qui dirait ça à l'encontre de son acteur...
Va perdre sa job.
Il perdrait sa job, mais les financiers, ils mettaient quand même de la pression.
Mm-hmm. Okay.
C'est beaucoup dans le sujet, dans l'actualité, ces temps-ci, de la pression. Est-ce que c'est indu ou voulu? On va pas rentrer là-dedans.
On va pas rentrer là-dedans.
Ben parlons d'agent, justement, quand on travaille avec une dame qui s'appelle Salma Hayek, est-ce que...
Salma,
est-ce que... Est-ce que justement les agents, l'entourage est plus présent?
Salma est plus grande que nature définitivement, tu sais. Puis
ça vient avec combien de personnes?
Ça vient avec beaucoup de personnes. Puis c'est sa vie. Écoute, elle est mariée à un milliardaire, fait que sa vie normale. Elle est entourée, fait que c'est vraiment impressionnant tout l'entourage autour. Mais elle est complètement dédiée au film. Puis c'était vraiment dans le but de parfaire son personnage, que j'ai adoré avec Salma, c'est...
Elle a les cheveux argent.
Oui, c'est son look. Elle a vraiment conçu son look, puis j'étais vraiment 10 longueurs en retard sur elle. Elle me dit, no, Kim, you know, blah, 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 like such designers. Elle est un peu affiliée à Gucci, puis tout ça, elle avait vraiment des idées très spécifiques, puis je l'ai juste laissé aller, là. Je comprenais pas exactement ce qu'elle disait.
À toutes les fois que je t'ai vu pour le film, je te rappelle la même anecdote. Elle te textait la nuit pour envoyer des idées.
oui, c'est ça.
Toi, tu recevais des textos de
Salma au milieu de la nuit chez moi. Oui, c'est ça.
Avec
oui.
ses idées sur le personnage.
C'est ça. Ma copine était très contente de ça.
Oui. parlons un petit peu de toi. Tu es un agent à Los Angeles, donc c'est vraiment vers où tu t'en vas, en fait, d'aller travailler à l'étranger, à l'international? Est-ce que tu pourrais revenir faire un film au Québec?
Ben, je pense que c'est plutôt, je me vois vraiment comme travailler encore au Canada, puis à Montréal, puis au Québec. Je pense qu'on a un système de support qui est extraordinaire au Canada, puis je pense que quand on arrime ça avec du financement privé, et qu'on réussit à arrimer des acteurs de calibre international, il y a vraiment une recette là, qui est géniale pour un réalisateur. Moi, je me rappelle quand j'étais à Concordia, je voyais François Girard qui faisait des films à 20 millions, puis des films d'auteurs, d'auteurs de luxe, on va dire. Puis moi, j'étais vraiment impressionné par ça. Puis je dois dire que dans ma tête, j'imaginais pas que j'allais réussir à avoir accès à de tels moyens pour des films d'auteur. Dans ma tête, c'est 5, 6, 7, 8 millions. J'étais super
heureux. Là, t'en as eu 16.
On en a eu 16. Puis les autres projets s'alignent super bien pour faire justement... Je pense que ça, quand t'es cette zone de budget avec accès à des acteurs de calibre international, puis que t'as accès à des scénarios qui sont uniques, idéalement, quand t'arrives à les écrire... c'est là la zone où que je voulais être dans ma carrière. Je suis super content.
Mais d'avoir un agent là-bas, ça te donne accès à des meilleurs scénarios?
Ben, alors non. Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est que, en naviguant dans ça, on m'a envoyé des scénarios. Puis souvent, les meilleurs scénarios sont déjà, il y a déjà 8 personnes attachées. Un des meilleurs scénarios que j'ai lu dans les dernières années, c'est un film qui s'appelle Sicario.
c'est dans ton ami Denis Villeneuve.
Mais là, Colin, j'aurais fait un bien meilleur film que Denis, là.
Mais ça te passe quand même entre les mains.
Oui, il y a quelqu'un qui me l'a glissé. Il m'a dit, OK, dépêche-toi. Il y a déjà beaucoup de gens qui lisent ce scénario. Mais lis ça. Mais en fait, le gros truc avec les agences, c'est vraiment pour qu'ils fassent l'entremetteur avec les comédiens. C'est vraiment ça. Le financement, en gros, c'est un scénario, un acteur, puis le réalisateur, c'est accessoire. C'est dans la mesure où l'acteur accepte de travailler avec le réalisateur. Tu sais, c'est vraiment dans le bas de l'échelle du trio. Mais j'avais parlé à Robert Lantos, qui est un producteur canadien qui a beaucoup travaillé dans ce genre d'industrie-là avec LA, puis il a fait des films extraordinaires avec Cronenberg. Et je lui ai demandé qu'est-ce que j'aurais faire pour les agences. Il m'a dit, en gros, regarde les acteurs que t'aimes le plus, puis choisis cette agence-là.
Oh,
puis,
OK, ouais.
Puis il a fait l'entremetteur avec CIA pour moi.
Est-ce que tu ferais de la série télé?
Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a un... Tu sais, il y a quand même une certaine mélancolie de voir que les gens fuient les salles quand même. Puis en même temps, il y a un super beau petit cinéma à Montréal. C'est quoi déjà?
Le cinéma moderne.
Le cinéma moderne, je trouve ça génial. Puis quand j'étais à Londres, c'est un des trucs que je trouve, il y a un renouveau de la petite expérience, une salle de 100 personnes avec un super bon resto à côté. Puis tu vas discuter, tu prends un verre de vin après avec cette expérience-là. Ça, je trouve ça génial qu'il y a un renouveau. Mais en même temps, les grandes salles, puis tout ça, c'est sûr que les gens vont moins voir de films. Et donc, tout ça pour dire que j'adore l'idée, moi, de la mini-série fermée, avec pas nécessairement un truc où tu es obligé d'avoir 58, un cliffhanger à la fin pour voir si on va continuer l'autre série, mais 5, 6, 7 épisodes pour un roman qui est trop complexe pour faire un long métrage, ça m'allume vraiment autant que faire un film.
Pour ou contre Netflix? ton cinéma sur Netflix?
Ben, tu sais, moi, je pense que ça sert à rien de dire. Je pense de plus en plus avec les Google de ce monde, Amazon, Netflix, puis je mettrai aussi, voyons, la musique. C'est quoi le
Spotify?
Spotify, oui.
Je crois qu'il faut reconcevoir notre vision de c'est quoi ces entreprises-là, parce qu'elles commencent à être on est loin de la compétition capitaliste, ça devient des monopoles et qui ont droit à des bénéfices et des corporations. Et il faut voir comme une possession publique, je pense. Je pense que de plus en plus, il va falloir dire à Netflix, à Google, à Amazon, vous êtes un bien public. On est également actionnaire de vous parce que vous bénéficiez de nos infrastructures électriques, nos routes, nos politiques, la sécurité militaire. Et donc, on est actionnaire, que vous vouliez ou non, puis donc on doit quand même négocier avec les gouvernements et tout ça. On doit légiférer, puis contrôler, puis je pense que le dialogue est inévitable. Et mais Netflix, juste pour terminer, il y a des hauts et des bas. Je crois qu'il faut absolument qu'ils payent leur taxes, puis je pense que au Québec en particulier, on a fait des belles démarches pour ça. Mais ceci étant dit, il y a un film excellent qui s'appelle Roma, qui a été fait par Cuaron,
oui.
qui a été refusé par 15 studios, puis c'est Netflix qui a décidé de le faire. Puis
mais les gens trouvent
Cuaron.
Ça incroyablement plate sur Netflix,
c'est
parce
vrai?
Que c'est un film pour
mais
grand
oui,
écran.
Oui, t'as raison. Moi, je l'ai vu au grand écran deux fois. J'ai trouvé ça grandiose.
Moi aussi.
Puis les gens trouvent ça plate?
Les gens s'emmerdent parce que c'est pas fait pour être vu sur une télé.
Ils veulent prendre leur email pendant...
Oui.
Ils veulent texter.
Ils font du lavage, puis s'occupent des enfants.
Non, t'as raison.
Effectivement.
Est-ce que ça aurait été un crime? Parce que on disait pendant les Oscars que si Roma emporte trop de prix, l'industrie a une espèce de gêne à donner à priser ce film-là parce qu'il passe en dehors des canaux habituels.
Moi, je crois que c'est un mythe, ça. Moi, je crois vraiment qu'à l'Académie, en tout cas, de gens que je connais, étant membre de l'Académie.
Et là, l'Académie.
Je l'ai placé. Merci.
On cherche l'Académie.
Je vais juste arriver à voilà. ça. je pense que les gens se sentent libérés, les membres de l'Académie. Tu sais, on est là pour triper, puis le grand plaisir d'être membre, c'est que, en tout cas, moi, c'est le plaisir que je me fais. Je ne suis pas influencé par aucune pression politique. Je vote pour le meilleur film.
Okay.
Puis je pense que c'est vraiment la grande majorité des gens qui font ça.
Kim Nguyen, merci d'être avec nous. Et puis ton film, le projet Mingbird, sort le 22 mars.
Oui.
Et je vous le dis, c'est vraiment un film hyper agréable.
Ben merci.
Puis en plus, tu m'as donné l'occasion de rencontrer Salma Hayek.
Salma. Salma. On va te texter la nuit.
Et Jesse Eisenberg.
Je vais sur mon numéro. Merci. Merci, Kim.
Merci beaucoup.
Merci.